Bonjour tout le monde, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous allez bien. Le podcast des maternelles, c'est parti. Le podcast des maternelles sur un sujet dont on parle beaucoup, bien évidemment, depuis 2 ans, en particulier dans cette émission, grossesse et Covid. Alors, vous allez me dire, ça peut être un peu anxiogène, certes, mais il faut raconter ces histoires d'accouchement en pleine crise du Covid. Vous vous souvenez sans doute l'angoisse dans les maternités, l'angoisse pour les jeunes parents. Aujourd'hui, on va recevoir Pierre. Pierre qui va nous raconter que sa femme a accouché en pleine crise du Covid alors qu'elle était en soins intensifs et donc dans le coma. Je le dis tout de suite, hein, c'est pas anxiogène. Enfin, c'est pas anxiogène. Ça l'est un peu, mais disons que ça se termine bien. Voilà, j'ai un peu spoilé, mais ça se termine bien. Voilà, je vous le dis pour que vous soyez à l'aise, pour que vous soyez détendu et pas trop angoissé. On écoute Pierre tout de suite et dans la foulée, on débrief avec le professeur Olivier Picon qui va nous raconter comment on a géré toute cette période. Allez, c'est parti, le podcast des maternelles, on y va.
Bonjour Pierre, merci d'être sur ce plateau pour nous raconter votre histoire. Vous êtes l'heureux papa de Faustine et de Céleste. Ce sont des jumelles qui sont arrivées il y a 8 mois, mais alors vraiment dans un contexte, j'allais dire assez particulier, c'est un euphémisme. Votre femme Aurore, elle avait le Covid. Elle était plongée dans le coma quand elle a donné naissance à vos 2 petites filles. Aujourd'hui, tout le monde va très bien, on le dit d'ores et déjà. Alors c'est une histoire de naissance incroyable. On est en août 2020, votre femme Aurore tombe enceinte. C'est une grossesse qui est évidemment très très désirée, mais en même temps c'est une grossesse qui vous stresse parce qu'elle intervient seulement 2 mois après la perte de votre premier bébé. Donc dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez quand le test de grossesse est positif ?
On était évidemment très heureux, c'est certain. On a rapidement appris que c'était donc des jumeaux. Et c'est vrai qu'on se dit que ça va être une très belle histoire, ça va être merveilleux. Et en même temps, on restait voilà, avec cette image de la perte de notre fils. On l'avait tenu dans nos bras et c'est vrai que c'était extrêmement compliqué. On se disait, si ça se trouve, le problème génétique qu'il a rencontré va se reproduire. Et donc, pendant quelques semaines, on se retrouve mais dans l'attente, on ne peut rien faire, on est obligé de voir comment la grossesse va évoluer. Et en même temps, il y a une hypermédicalisation qui s'opère tout de suite, puisqu'il faut bien sûr gérer, sachant que tout de suite, on nous dit que ce sont des multiples, donc on ne pourra pas faire l'examen génétique qu'on aurait pu faire sur un enfant unique, puisqu'on peut analyser le placenta et faire une biopsie des trophoblastes, et on ne peut pas le faire sur des multiples, c'est trop compliqué.
Donc c'était quand même un peu le stress. À quel moment est-ce que vous êtes senti rassurée ?
Je pense que c'est au bout du 5e mois de grossesse, à peu près, voilà, au mois de janvier, on s'est dit, bon, ça y est, on peut peut-être se projeter. La psychologue nous disait, il est temps quand même voilà, de se projeter. On a commandé la poussette, les sièges auto, tout ça, le jour où Aurore est partie aux urgences le soir, parce qu'elle se sentait fiévreuse, on s'est dit, il y a un problème. Mmh. Et puis, à ce moment-là, on a découvert...
Vous êtes allé aux urgences, à ce moment-là ?
Oui, tout à fait. On est allé aux urgences, il y avait de la fièvre. On nous avait dit, s'il y a de la fièvre, il faut y aller tout de suite. Elle a été tout de suite très bien prise en charge par la sage-femme qui s'était occupée de notre premier enfant. Peut-être un signe du destin. Et à ce moment-là, on nous dit, il y a une menace d'accouchement prématuré. On va donner des médicaments pour calmer les contractions. On va donner de la cortisone pour que les poumons des enfants se développent si jamais on devait accoucher.
Mais à ce moment-là, vous ne savez pas que vous avez le Covid, parce que vous avez le Covid tous les deux à ce moment-là. Vous ne savez pas encore ?
Non, on fait un test à Aurore. Moi, je ne le sais pas. J'attends en bas de la maternité. Je n'ai pas le droit de rentrer de toute façon. Et là, on nous dit, dans la nuit, on nous dit, vous avez le Covid, il faut que votre mari aille se faire tester. Donc, je l'ai. Moi aussi, je l'avais. J'ai eu des symptômes immédiats, quasiment immédiatement. Et là, j'étais le premier à avoir des symptômes. Donc, on s'est tout de suite dit, c'est moi qui l'ai contaminé, c'est moi le coupable. Ma femme était totalement confinée chez elle. Moi, je suis prof en lycée, donc on contacte beaucoup de gens. Et malgré toute la prudence que je pouvais avoir, malheureusement, il y a eu une
culpabilisé un peu.
Énormément. Wow. Énormément.
Comment allait Aurore alors ? Donc, on lui fait son test, il est positif, elle est en menace d'accouchement prématuré. Comment est-ce qu'elle se sent à ce moment-là ?
Au départ, elle va bien. Elle est dans sa chambre, elle me dit je suis là pour une semaine, ça va bien se passer, j'ai appelé des amis pour qu'on m'envoie des petites affaires, etc. Les pédiatres passent pour nous dire, écoutez, on est à 24 semaines plus 5, on peut réanimer à ce stade-là. Moi, je me souviens, j'étais au téléphone, je dis, mais attendez, il va y avoir des séquelles. Je dis, vous verrez, ce n'est pas toujours le cas. Donc, on se dit, bon, il va peut-être avoir une solution. Et voilà, donc Aurore, elle, au départ, elle va bien. C'est qu'à partir de, oui, 3-4 jours plus tard, le dimanche, qu'elle commence à ne plus être capable de respirer toute seule. Il faut lui donner de l'oxygène et puis en quantité importante. Et là, elle est transférée, au bout d'un moment, elle est transférée vers un service de réanimation parce que ça ne suffit pas. Il faut lui donner une ventilation extrêmement puissante pour respirer. Et là, la bagarre commence. Elle s'est vraiment battue, hein, battue comme une lionne. Elle avait excessivement mal. La ventilation était très puissante, mais elle dit, il faut absolument que je tienne, il faut que les enfants restent au chaud, quitte à hurler de douleur. Mais elle a tenu quand même une semaine comme
ça. Vous étiez inquiet pour les bébés ?
Terriblement, terriblement inquiet. Puis à ce stade-là, on savait à peu près à quoi ça ressemblait un bébé, on avait à peu près l'image. Moi je pensais à Joseph, notre premier fils, je me disais mais c'est pas possible, l'histoire va pas se reproduire dans d'autres circonstances. On était inquiets et puis bon voilà, les réanimateurs nous ont dit écoutez, la priorité c'est quand même la maman, donc forcément on se dit oui mais il y a quand même les bébés, il faut aussi y penser. Donc bien sûr l'inquiétude elle est maximale à ce moment-là.
Ah oui, ça on imagine. Vous avez découvert d'ailleurs que les équipes de la maternité avaient déjà tout anticipé en fait, hein.
Oui, alors nous étions à la maternité de Port-Royal et en face, il y a l'hôpital Cochin. Et en fait, il y a des souterrains entre les deux hôpitaux et ça, je ne le savais pas. Et l'équipe de réanimation pédiatrique s'était entraînée à courir entre les deux services et à se chronométrer. Ils se chronométraient pour voir les temps qu'ils faisaient et ils avaient installé les incubateurs dans le service de réanimation au cas où il aurait fallu accoucher en urgence.
On peut leur rendre hommage, hein, parce que franchement, quel boulot. Alors, une semaine après son arrivée, l'état d'Aurore s'est dégradé. Oui. Du coup, ils l'ont plongée dans un coma artificiel et ils ont décidé de déclencher l'accouchement. Est-ce que vous avez pu assister à la naissance de vos filles ?
Alors non, je n'ai pas pu assister. J'ai pu y aller très vite. J'étais toujours d'abord positif au Covid. Donc, quand on m'a appelé, j'ai dit « je suis encore positif ». Je dis, est-ce que j'ai le temps d'aller faire un test ? Il me dit, oui, allez-y. Donc, j'ai couru faire un test à la pharmacie. La pharmacienne me dit, non, mais on va faire un faux, c'est pas grave, il faut que vous y alliez. Je dis, non, hors de question, on fait les choses réellement. J'étais négatif, donc là, grosse émotion. Je dis, bon, il faut que j'y aille. Et je suis arrivé, voilà. Je pouvais pas rentrer dans la salle d'accouchement, il y avait trop de médecins, parce que forcément, il y avait des réanimateurs, etc., pour gérer Aurore. Mais je les ai vues, elles avaient 15 minutes de vie, grosso modo. Donc, le temps juste qu'elles soient stabilisées, j'ai pu les voir tout de suite.
Donc, vous les avez accueillies seules, vos deux petites filles, Faustine, Céleste. Elles sont nées à 5 mois et demi seulement, c'est fou. Ça veut dire 25 pour toutes les femmes enceintes qui nous regardent, 25 semaines d'aménorrhée plus 5. Voilà, donc c'est vraiment limite. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu vos filles ?
C'est la peur, on a très peur, on se dit mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On les voit minuscules, 770 grammes Céleste, Faustine, 675 Céleste, minuscules. Et là, je me dis, mon Dieu, mais il faut qu'elles tiennent, il faut qu'Aurore puisse les voir, parce que je ne serais pas capable. Enfin, je me doutais de la réaction et je me suis dit, mais elle ne va pas s'en remettre.
Vous leur avez parlé un peu à vos filles ?
Oui, bien sûr, je leur ai dit il faut que vous teniez, il faut que vous teniez, vous allez voir votre maman, elle est formidable, elle s'est battue, il faut tenir. Donc j'arrêtais pas de leur dire maman va arriver, vous allez la rencontrer, etc. Et c'est vrai que c'est ça. Et puis en même temps, on a quand même toujours la peur de se dire mais est-ce que ma femme va survivre aussi ? Et la peur, elle est aussi de se dire mais je vais me retrouver seule avec ces deux enfants, comment je vais faire pour gérer. Déjà, un bébé, c'est difficile, mais deux, on n'imagine pas.
Oui, vous projetiez forcément, on pense au pire, on ne peut pas s'en empêcher. Comment est-ce que vous avez fait pour gérer les deux services de réanimation ? Vous deviez être tiraillée, parce qu'il y avait votre femme d'un côté en réanimation Covid, et puis il y avait vos filles. Comment vous êtes partagée ?
On court entre les deux services. Alors, la réanimation pédiatrique, c'est très normé. Hein. C'est des soins tous les 3 heures. Donc, je m'arrangeais pour être là au moment des soins et aller voir ma femme entre-temps. Et puis, j'ai essayé de créer un lien quand même entre les deux services. Et ce lien, ça a été la lactation. En fait, Aurore a rapidement repris ses esprits. Et donc, je lui ai dit, est-ce que...
On l'a réveillée juste après l'accouchement ?
Pas tout de suite, tout de suite. Elle a commencé à... On lui a enlevé les sédations. Elle était toujours intubée 24 heures plus tard. Et on l'a extubée 48 heures plus tard.
D'accord.
Et donc à ce moment-là, elle était vraiment très choquée, mais je lui ai dit, est-ce que tu voudrais bien essayer de tirer ton lait ? Et elle m'a fait un petit signe, donc je suis arrivée avec un tire-lait en réanimation, ce qui était quelque chose qui n'avait été jamais vu manifestement. et donc on s'est lancé dans cette aventure en me disant, il faut créer un lien entre elles, et puis j'espérais quand même qu'il y ait un lien le lien avec le sein après qui se tisse. Et ça, ce lien, je ne pouvais pas l'avoir moi. Et je voulais qu'elle ait quelque chose d'unique, parce que moi, j'ai été le premier à avoir quelque chose avec mes enfants. Et je me dis, il y a quelque chose qu'elle n'aura pas vécu. Mmh. Donc voilà. Et ça a marché, puisqu'aujourd'hui, elle donne du lait pour les autres bébés prématurés. Et elle les allaite toujours. Donc,
c'est super, voilà. Ça, c'est formidable. Donc, elle fait des dons à des lactariums, hein, et ils sont en pénurie. Donc, on en profite pour rappeler que si vous avez beaucoup, beaucoup de lait, vous pouvez donner. Alors, quand est-ce qu'elle a pu voir Faustine et Céleste pour la première fois?
Au bout de 6 jours, elle a été transférée donc, vers les services de maternité, grâce aux médecins qui se sont engagés à la suivre, etc., parce qu'elle était quand même encore assez faible. Et c'est vrai que la maternité n'avait pas les services, les équipes pour gérer ça, mais ils ont dit, on va faire le travail. Et elle a pu les voir. Et alors là, elle était très, très fatiguée. On est arrivé en fauteuil roulant avec les bouteilles d'oxygène, etc. Mais le lien, il existait tout de suite, parce que c'était un peu irréel pour elle. Et en même temps, les filles, elles ont réagi quand même à sa voix, peut-être à son odeur, je ne sais pas.
Ah, vous l'avez senti?
Ah oui, c'était évident.
Vous avez pu rentrer à la maison quand avec tout ça?
Alors, Aurore est rentrée au bout de 3 semaines à la maison. Très compliqué, elle avait des machines à oxygène à la maison,
ah,
etc.
Oui, toujours.
Donc on faisait les allers-retours en voiture vers la maternité, etc. Ça a été assez difficile. Mais voilà, le lien avec les enfants prématurés, il faut être tous les jours avec eux pour leur donner le maximum de chance. Et les filles, elles sont rentrées au bout de 3 mois. Ce qui est très peu, hein, parce qu'on nous avait dit 4 mois, 4 à 5 mois. Et en fait, elles sont sorties avant terme.
Voilà, on les voit sur les images, là, les deux petites choupinettes, trop mignonnes.
Là, elles avaient 2 mois et demi.
Voilà, et donc là, aujourd'hui, tout le monde va bien?
Oui, tout le monde
va bien.
Elles
se développent bien?
Elles se développent bien, elles grandissent bien.
La maman est bien remise de tout ça?
La maman est bien remise, elle va pouvoir reprendre le travail. Les filles sont à la crèche et elles se développent avec les autres enfants comme les autres, quoi.
Professeur Olivier Picon, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue obstétricien, responsable de l'unité de diagnostic prénatal de l'hôpital Louis Mourier à Colombes. Alors c'est vrai que la situation sanitaire semble s'améliorer, mais ce n'est pas fini. Hein. On ne va pas dire que le Covid, c'est derrière nous. D'autant qu'on remarque aussi que les Français sont de moins en moins nombreux à respecter les gestes barrières. Donc d'ailleurs, il y a de plus en plus de rhumes, de rhino qui arrivent dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui précisément du Covid et des femmes enceintes? Est-ce qu'elles sont plus à risque de développer une forme sévère, notamment avec l'émergence des différents variants, par exemple? Parce qu'on entend beaucoup de choses.
C'est clair, on le sait maintenant, s'il n'y a plus aucune ambiguïté, l'infection par le virus de la Covid est plus grave chez la femme enceinte que chez une femme du même âge non enceinte. C'est une certitude. Alors même si la plupart des femmes vont faire une forme modérée, il y a plus de risques de faire une forme grave. Il faut avoir peur de cette infection, il ne faut pas avoir peur du vaccin.
Oui, c'est ça.
Petite question à propos du port du masque, envoyée par Cindy.
Bonjour la maison des maternelles, j'ai une petite question concernant le port du masque. Comme on va être amené à le porter à la maternité au moment de l'accouchement et dans les premiers jours de la vie du bébé, je me demandais si ça allait le perturber au retour à la maison, le fait de ne plus nous voir avec, puisqu'on avait la moitié du visage caché. Est-ce que ça va le perturber pour nous reconnaître, en gros? Puis j'en profite pour vous remercier pour tous vos petits conseils et pour nous soulager dans tous nos petits questionnements.
On peut rassurer Cindy, non? Les femmes, elles peuvent enlever le masque après avoir accouché
En chambre. Lorsqu'elles sont avec leur bébé dans leur chambre, elles n'ont pas le masque. Elles peuvent tout à fait avoir un lien normal avec leur bébé. C'est surtout la déambulation à l'intérieur de l'hôpital où il faut être vigilant. Mais quand elle est toute seule avec son bébé dans sa chambre, il n'y a aucun souci.
Elle quand peut un professionnel entre dans la chambre, là, on met le masque et c'est le seul moment où on le met, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Vous avez parlé du vaccin, vous dites qu'il ne faut pas en avoir peur. On a une question de Lydie, elle dit: quels sont les risques pour mon bébé si je me fais vacciner pendant ma grossesse et à quel moment de la grossesse vaut-il mieux le faire?
Alors, première réponse, il n'y a pas de risque pour le bébé à être vacciné, ça c'est clair maintenant. Et après, sur la question de quel est le meilleur moment pour se faire vacciner, je pense que le meilleur moment, c'est avant la grossesse. Maintenant, si on a un projet de grossesse, il faut le faire avant, comme ça au moins on ne se pose pas la question. Mmh. Et si on est enceinte, on peut le faire à n'importe quel moment. Alors c'est vrai que les gens ont peur du risque de fausse couche. Le vaccin n'augmente pas le risque de fausse couche, c'est clairement démontré maintenant. Après, si les patientes ont peur, qu'elles le fassent au deuxième trimestre. Après, c'est vrai que les formes graves sont surtout celles du troisième trimestre, la fin du deuxième trimestre. Donc le temps que le vaccin soit efficace, il vaut mieux le faire idéalement au début du deuxième trimestre. À partir de 14-15 semaines d'aménorrhée, c'est l'idéal, mais on peut le faire au premier trimestre sans souci.
Vous devez convaincre, vous? Parce que là, on a beaucoup de messages de femmes qui nous disent: moi, je ne suis pas une anti-vaccin, mais enceinte, j'ai un peu peur. On peut comprendre.
Bien sûr, on se pose des questions.
Donc vous, vous avez un travail pédagogique encore aujourd'hui là ?
Oui, on a un travail pédagogique à faire et on a beaucoup de patientes encore qui sont réticentes. Alors on a une enquête en cours là où on a quand même un taux de vaccination qui serait de 30 à 50 %, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Il faut qu'on reste de la pédagogie, qu'on explique.
C'est pas mal, vous trouvez 30 à 50
%. Ah oui, ouais. Par rapport à la grippe d'habitude, c'est plutôt
déjà,
un bon
résultat. Quand on est enceinte, on hésite à prendre un Doliprane, quand même remettre les choses en place.
Donc c'est plutôt pas mal, mais effectivement, il y a de la pédagogie à faire, il y a les réassurances, il faut écouter leurs questionnements, il ne faut pas les balayer, et il faut être clair sur ce que l'on sait. Maintenant, et ce que l'on ne sait pas encore complètement, mais sur la vaccination et grossesse, franchement, il faut y aller, il n'y a pas de doute.
Yannick vous demande si le père doit être vacciné pour accompagner son épouse à l'accouchement.
Alors, il doit avoir un pass sanitaire.
Bon.
On a vu dans le reportage que le conjoint, s'il est vacciné, c'est mieux, ce qui fait une petite bulle autour de la femme enceinte, ce qui est plutôt quelque chose de protecteur. On sait que le vaccin protège l'entourage aussi. On est moins contaminant, c'est clair. Donc il faut que l'entourage soit vacciné, c'est l'idéal. Après, pour l'hôpital, le pass sanitaire suffit, ce qui veut dire qu'il peut y avoir aussi un test antigénique ou une PCR.
Géraldine vous demande, peut-on allaiter en toute sécurité durant la pandémie de Covid-19 ?
Il faut allaiter, toujours.
Ça, c'est... Le message est clair.
On peut parler du masque pour l'accouchement en tant que tel. Comment ça se passe ? Quelles sont les règles et est-ce qu'on peut contourner ces règles ? Vous me voyez venir.
Parce que... Aïe, aïe.
Vous le savez que...
Vous savez, vous pouvez vous faire insulter sur les réseaux. Avec...
C'est déjà fait, vous inquiétez pas. par rapport au port du masque, le port du masque est recommandé pendant l'accouchement, notamment parce que nos amis sages-femmes, j'en profite pour dire qu'évidemment, tout le monde soutient leur démarche, leur mouvement. Tous les gynécologues sont à fond derrière elles. C'est nos collègues et on est tous derrière elles. Elles sont à un mètre devant le visage de la dame. Et donc, elles sont en plein dans le flux si la patiente n'a pas de masque. Donc, par mesure de précaution, c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir le masque. On ne peut pas l'imposer parce qu'on peut être essoufflé, on peut avoir du mal. Donc à ce moment-là, elle peut l'enlever. À ce moment-là, la sage-femme doit mettre un masque FFP2. Donc l'idéal, c'est d'avoir le masque au maximum, mais on ne peut pas l'imposer.
Femme pour qui ce serait insupportable.
Elle l'enlève et puis le personnel autour s'adapte. C'est vraiment très important. On ne va pas la forcer.
Barbara qui dit « Bonjour, je suis enceinte de 6 mois. Je suis vaccinée. Ai-je néanmoins des risques de développer une forme grave ?»
Alors, les formes graves avec la vaccination, c'est quasiment inexistant. Alors, ça protège à 90-95%, donc il y a toujours une possibilité que ça arrive, mais le risque est franchement diminué. C'est l'intérêt de la vaccination, c'est ça, c'est protéger des formes graves.
Le risque d'attraper le Covid est déjà minime, et même si on attrape le Covid, le risque d'en faire une forme grave est encore plus minime. Donc, est très rassurant.
Oui.
J'ai l'impression vous ne recevez pas la question, dont je dis pour la régie, parce que...
Mais on m'en a envoyé par SMS. Donc,
ah bon, ça va. Donc, si vous n'avez pas SMS, ça...
Eh bien, je continue. May qui vous demande quelles sont les nouvelles règles concernant les visites des frères et sœurs à la maternité.
Alors, dans les hôpitaux encore, pour l'instant, je pense que ça peut dépendre aussi un petit peu des régions, mais pour l'instant, les visites de la fratrie ne sont pas toujours autorisées partout. C'est vraiment... Ça dépend des endroits. Mais en règle générale, en plus, l'hiver va arriver avec d'autres virus pour lesquels, d'habitude, hors Covid, la visite de la fratrie ne sont pas toujours autorisées puisqu'il y a les VRS et autres virus. Donc là, je pense que ça va être un petit peu compliqué encore pour quelques mois.
Votre conseil et votre avis là-dessus, c'est bien si on peut d'emmener le grand frère ou la grande sœur, ou alors la maternité, c'est un petit peu un moment à part où c'est bien de laisser la maman, le papa et le tout petit.
C'est important de l'associer, c'est déjà un choc important, le départ de la mère. Alors, c'est un peu maternité dépendant, je dirais. Il y a parfois des arrangements qui sont faits parce qu'on est quand même des humains, mais on est très prudent, effectivement. Puis les enfants comprennent.
J'ai déjà eu peur qu'il pose une question avant moi, donc j'étais au taquet un peu. Julie vous demande si, en plus du vaccin contre le Covid, il faudrait faire le vaccin contre la grippe.
Oui, absolument.
Ah bon ?
Tout à fait. Il faut associer les deux vaccins. Et d'ailleurs, on peut le faire en même temps, même si on veut. Il n'y a pas de souci. Il faut se protéger contre les deux.
C'est pas encore, là, le vaccin contre la grippe ?
Donc, ça ne va pas tarder.
Ça ne va pas tarder. Bonjour, Bilitis dit bonjour, le gynécologue présent.
C'est sa femme, il est hyper emmerdé. Bonjour mon amour, est-ce que tu peux acheter une baguette en passant ? Comme il est sur son portable, tout est mélangé.
C'est pas faux, parce que je reçois des messages et puis ça a pourri mon truc. Donc vous avez dit tout à l'heure, je vous cite, enfin c'est quelqu'un qui vous cite, qui s'appelle Bilitis, il y a certaines choses qu'on ne connaît pas encore sur le Covid et les femmes enceintes. Vous avez dit ça, elle vous demande des précisions.
Alors, c'est l'impact sur le placenta et les risques de complications graves comme les morts in utero. C'est des choses qui peuvent arriver. Il semblerait qu'il y ait un peu plus de morts in utero dans les patientes qui attrapent le Covid, y compris chez des Covid pas graves. Donc, c'est des choses qu'il faut qu'on creuse parce que c'est un accident rare. Heureusement, les morts in utero.
On est sur du rarissime, là.
C'est rare, mais il semblerait que ce soit augmenté par ça. Et ce que l'on sait, c'est que ça passe rarement au fœtus. Ça ne donne pas de malformation, mais on a des cas maintenant qui arrivent où la patiente a été en tel état d'hypoxie, en tel état de choc à cause de l'infection, que l'oxygénation du bébé ne s'est pas faite correctement et qu'il y a des anomalies cérébrales sur des fœtus. Donc, c'est des fœtus qu'il faut surveiller de près à l'échographie une fois que la patiente est sortie de réanimation pour être sûr qu'il n'y a pas eu de conséquences.
Bon. On voulait rassurer cette maman. C'est rare.
Voilà, c'est hyper rare. Okay. C'est hyper
rare. Vous avez transmis une question.
Oui. Marilène nous demande quel est le suivi, enfin elle vous demande surtout à vous, puisqu'encore une fois, nous, on ne peut pas répondre. Quel est le suivi pour une femme enceinte infectée pendant sa grossesse? Concrètement, qu'est-ce qu'on doit s'attendre?
Alors, au début de l'infection, il faut être extrêmement vigilant, comme ça a été dit dans le témoignage tout à l'heure, à l'aggravation au bout de quelques jours. C'est-à-dire qu'au début, on peut avoir juste un petit peu de fièvre, une petite toux, et puis brutalement, ça peut s'aggraver brutalement. Et c'est ce qui est arrivé tout à l'heure avec la patiente qui a fini en réanimation. Donc, au début des symptômes, il faut être extrêmement vigilant sur la façon dont on respire, la saturation éventuellement, etc. Donc, surtout, un signe très alarmant, c'est la fréquence respiratoire. Dès qu'on a besoin de respirer très vite, vraiment, il faut consulter parce que ça peut s'aggraver rapidement. Et une fois qu'on a guéri de la Covid, il est recommandé de faire des échographies tous les mois pour vérifier la croissance du bébé à cause de l'atteinte éventuelle du placenta qu'il peut y avoir.
Luc vous demande, est-ce que l'ARN messager pénètre aussi dans les cellules de mon bébé ?
Absolument pas. L'ARN messager, il est dans le muscle. Là où il a été injecté, il ne sort pas du muscle. Et il est détruit très rapidement après qu'il ait pu faire la fabrication des protéines, et cet ARN messager ne rentre pas dans le noyau de la cellule non plus. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça.
Est-ce qu'il y a eu assez de pédagogie, selon vous, et indépendamment des femmes enceintes, sur l'ARN messager? Parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, et je trouve qu'avec vos deux phrases, ça rassure quand même beaucoup sur ce qu'est l'ARN messager.
Ben, c'est assez compliqué, cette notion de biologie moléculaire, sur ce que c'est que l'ARN, l'ADN, tout ça, c'est assez confus dans la tête des gens, c'est assez compliqué.
Oui, on a entendu, ça reste dans l'ADN, ça modifie l'ADN.
Ça modifie l'ADN,
non, ça ne modifie rien du tout, parce que cet ARN messager ne peut pas être transformé en ADN, parce qu'il manque l'enzyme qui le fait, cette transformation, et en plus, il faudrait que ça aille dans le noyau, en plus, que ce soit intégré dans l'ADN. Donc, ça fait beaucoup d'étapes qui sont pas possibles.
Tara vous demande, j'ai vu que le vaccin anti-Covid provoquait des troubles menstruels. Y a-t-il des risques d'infertilité ?
Oui, effectivement. Ça donne des troubles menstruels. Oui,
attention, attention.
Oui, ça donne des troubles menstruels. Je crois qu'au début, effectivement, ça ne sortait pas dans les études qui ont été publiées sur le vaccin. Mais on a eu beaucoup de témoignages et il y a des enquêtes qui sont faites pour savoir si c'est vraiment plus fréquent dans la population générale. Le cycle menstruel, c'est quelque chose de très fragile. Oui. Il ne faut pas grand-chose pour perturber un cycle menstruel. Donc voilà, mais en tout cas, les témoignages, on les entend, on les écoute, mais c'est des choses...
Ce sont des règlements du cycle.
Oui, des petites augmentations, des petits retards, des petites avancées, des choses qui sont désagréables, parce qu'il faut avoir ce qu'il faut, mais qui ne sont pas graves. Et à l'heure actuelle, il n'y a vraiment aucun argument pour penser que ça a un impact sur la fertilité, du tout. Il n'y a vraiment aucun argument pour être inquiet. Alors, ça fait un an et demi qu'on a l'épidémie, ça fait 9 mois qu'on a le vaccin, mais de ce que l'on sait de comment est fait le vaccin... et de comment ça fonctionne, de ce qu'on sait sur les autres vaccins, il n'y a aucune raison que ça ait un impact sur la fertilité. J'ai même une patiente qui a eu un début de grossesse qui était 2 jours après la vaccination. Donc si on s'inquiète sur des phénomènes ou des effets réseaux sociaux de petits cas cliniques, je pourrais très bien dire de ce petit cas clinique, le vaccin booste la fertilité.
Non,
il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir par rapport à ça.
Est-ce que le test PCR est obligatoire si on est vacciné, vous demande Amélie ?
Alors oui, en maternité actuellement, on demande encore un test PCR, même si la patiente est vaccinée. D'abord parce que ça protège contre les formes graves, mais on peut faire une forme pas très grave. Et l'objectif est toujours de protéger l'entourage et l'hôpital où il y a des gens qui sont potentiellement malades. Donc on continue à faire un test PCR et continue à avoir un isolement s'il est positif.
D'ailleurs, à l'hôpital, vous avez perdu, entre guillemets, des sages-femmes, des médecins, des infirmières qui ont refusé de se faire vacciner ?
Oui, alors des médecins, non, des sages-femmes, non, mais des paramédicaux, oui, ce qui impose parfois dans certains endroits des fermetures de lits, ce qui nous embête un petit peu.
Chez vous, il y a eu des fermetures de lits à cause de ça ?
Oui, chez nous, il y en a eu, et dans beaucoup de maternités, il y a eu des fermetures de lits, parfois temporaires, le temps de trouver des solutions, mais il y a parfois des fermetures de lits, oui.
Et Luna vous dit, je suis choquée de voir que les équipes soignantes font des tests PCR justement pour l'accouchement. Il est hors de question qu'on m'impose un test. Pourront-ils m'interdire d'accoucher dans la maternité ?
On ne va pas lui interdire. D'abord, il y a une chose qui s'appelle la loi Kouchner. Donc, on ne peut pas imposer un soin à quelqu'un qui n'en veut pas. Donc, si elle n'en veut absolument pas, bon, on ne lui fera pas, mais elle sera considérée comme positive.
Ah ouais.
Et là, avec ça change quoi ?
Ça veut dire qu'elle va être isolée, qu'il y aura les gens avec les masques. Donc, c'est embêtant. Enfin, le test PCR, c'est vrai que ce n'est pas très agréable, mais ça quand même facilite beaucoup la vie des choses. Et encore une fois, ce n'est pas tellement pour elle, c'est aussi pour l'entourage, pour les soignants, pour les gens qui peuvent croiser éventuellement dans l'hôpital, qui peuvent avoir des immunodépressions. C'est protéger les autres de faire ces tests.
Malika vous demande si elle devra accoucher par césarienne si elle est positive au virus.
Non, on essaie de faire le maximum pour accoucher voix basse.
Au début, il y avait un peu plus de césarienne. Alors,
au tout début, quand on revient au mois de
mars 2020,
effectivement, on ne savait pas comment allait évoluer la maladie, donc on avait tendance à faire accoucher vite et parfois par césarienne. Là, maintenant, on est très voix basse. Si l'état respiratoire le permet, on est très voix basse.
Hélène vous dit, si je me fais vacciner pendant ma grossesse, est-ce que mon bébé sera protégé contre le virus à la naissance ?
Alors je parle à côté d'un éminent pédiatre, donc ça tombe bien. Ce qui est extrêmement important, c'est que les anticorps produits, que ce soit après une infection naturelle ou après un vaccin, passent à travers le placenta. Donc c'est une production naturelle d'anticorps. Et que ce soit pour la grippe, pour la coqueluche, pour la Covid, il va y avoir des productions d'anticorps qui vont passer chez le bébé et qui vont rester plusieurs semaines. On ne sait pas la qualité de la protection du nouveau-né, mais on sait qu'il y a ces anticorps, ce qui peut être que bénéfique.
Voilà, merci au professeur Olivier Picone, merci à Pierre d'être venu nous raconter cette histoire. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à aller mettre des notes sur les différentes plateformes. Et puis aussi, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram pour me proposer des sujets qu'on pourrait traiter en podcast. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous, à toutes un très bon week-end. À lundi, j'espère. Ciao.
Salut.